Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Faire de la place pour Jésus plutôt que de gaspiller son temps dans les fêtes et les dépenses, c'est la recommandation du pape François pour la solennité de Noël qui frappe déjà à nos portes et à laquelle sera consacré l'essentiel de ce magazine. Le pape François qui a encore eu une journée de travail ce 23 décembre, il a reçu notamment le nouvel ambassadeur de Cuba. Quand un nouvel ambassadeur de Cuba présente ses lettres de créance au pape, cela passe rarement inaperçu. Ce lundi matin, Rodney López Clemente a été reçu par le pape argentin. Un diplomate chevronné qui a occupé des postes prestigieux en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Nations Unies, en Inde. Au sein du ministère des Affaires étrangères, il s'est occupé entre autres des relations entre Cuba et les pays socialistes d'Europe. Cette audience intervient 16 ans après le voyage historique de Jean-Paul II dans l'île et sa rencontre avec le chef de la révolution cubaine Fidel Castro, et près de 2 ans après le voyage très diplomatique de Benoît XVI, Jean-Baptiste Cocagne.
Cuba est l'un des rares pays latino-américains à avoir accueilli 2 papes sur son territoire. Le Saint-Siège et la République de Cuba ont noué leur rapport diplomatique il y a près de 80 ans. Et depuis une vingtaine d'années, le Vatican s'efforce de peaufiner ses bonnes relations avec la Havane et d'obtenir de nouvelles concessions en matière de liberté religieuse. Ce qui n'empêche pas l'Église catholique locale de prendre ouvertement la parole pour exprimer sa vision des choses. Il y a quelques mois, dans une lettre pastorale, la Conférence des évêques a ainsi réclamé une réforme du système politique en vue d'une société pluraliste. Autrement dit, la fin du parti unique. L'Église elle-même a déjà bénéficié des ouvertures amorcées depuis 2006 par Raúl Castro. C'est grâce à la médiation du cardinal archevêque de la Havane que des prisonniers politiques ont pu être libérés. En 2011, la procession à travers toute l'île de la Vierge de la Charité du Cuivre, la patronne de Cuba, avait remporté un énorme succès. La revue Espacio Laical, éditée par des laïcs de l'archevêché de la Havane, est la seule publication indépendante distribuée à Cuba. Tout en saluant les récentes avancées, les évêques cubains regrettent la persistance de la pauvreté et l'existence de résistances suscitées par des facteurs idéologiques hérités du passé. Selon eux, l'État paternaliste devrait être remplacé par un État participatif.
Sur la RTBF, l'archevêque de Malines-Bruxelles a salué la décision courageuse du gouvernement espagnol sur l'avortement, décision qui, vous le savez, a suscité un tollé dans certains milieux. Le gouvernement espagnol vient en effet d'approuver un projet de loi qui protège mieux la vie dès sa conception. Monseigneur Léonard a regretté que l'acte de faire mourir quelqu'un avant sa naissance ait été banalisé dans de nombreux pays. La loi pour la protection de la vie de l'enfant à naître et le droit des femmes, qui doit encore être soumise au Parlement espagnol, est une victoire pour les nombreuses ONG qui s'étaient engagées depuis plusieurs années pour la dignité de la vie. Un des avantages de la loi est qu'elle instaure un conseil et une information de qualité au sujet de l'avortement. Cependant, elle conserve la possibilité d'avorter en cas de viol et maintient la possibilité d'avorter le fœtus en cas de maladie. À Bruxelles toujours, l'évêque auxiliaire Mgr Jean Coquerolles a profité de cette période liturgique pour rappeler que plus de 33% des Bruxellois vivent avec un revenu sous le seuil de pauvreté, soit une augmentation de plus de 5% en un an. Les logements sociaux sont insuffisants, de nombreuses familles habitent dans des appartements trop petits et insalubres. Les immigrés, eux, squattent des bâtiments où ils vivent dans des conditions d'hygiène très précaires et se sentent rejetés. Une injustice sociale inacceptable et inhumaine alors que la société n'a jamais produit autant de richesses. Mgr Coquerolles souligne que le fossé qui sépare les riches des pauvres devient de plus en plus profond, y compris en Belgique. Il est urgent de redistribuer les richesses, d'offrir aux plus démunis des droits plus encore que la charité. Cela réclame un engagement citoyen clair et une mobilisation de la solidarité. Et toujours en Belgique, l'évêque de Namur a rendu visite aux détenus pour partager avec eux le message de Noël. En Grèce, le président de la conférence épiscopale encourage la lutte contre la corruption. Monseigneur Papa Manolis s'insurge contre ceux qui continuent de voler dans les ministères et dans le monde politique, malgré les souffrances endurées par la population. 62% des jeunes de moins de 24 ans et sans emploi. Les salaires et les retraites ont baissé de 25%. 4 familles sur 10 ne parviennent pas à payer leurs factures. Et ce, alors que des millions d'euros ont été volés par ceux qui détiennent le pouvoir. L'émigration vers l'Allemagne et vers le nord de l'Europe a repris. Selon Caritas, des familles entières vivent grâce à la retraite d'une personne âgée qui vit avec eux. Caritas qui, malgré le concours d'une centaine de bénévoles, ne parvient plus à faire face aux demandes d'aide. Face à cette situation dramatique, le président de la Conférence des évêques catholiques prône la tolérance zéro contre la corruption. L'heure est grave, il faut donc sévir contre ceux qui violent la loi. Dans quelques heures, le pape François présidera la messe de la nuit de Noël dans la basilique Saint-Pierre à Rome. La célébration débutera à 21h30, mardi soir. Comme toutes les autres célébrations liturgiques présidées par le souverain pontife, vous pourrez la suivre en direct avec commentaires en français, en son et en images sur le site internet de Radio Vatican, www.radiovaticana.va. À quelques heures de cette solennité, le pape François a voulu demander aux catholiques de passer un peu de temps en silence au cours de cette fête souvent bruyante, et d'écouter la voix de l'amour. Encore une fois, il a invité les fidèles à ne pas s'enfermer dans leurs certitudes, mais à vivre comme des pèlerins dans une attente vigilante. Mercredi à midi, il proclamera son premier message, Urbi et Orbi. À cette occasion, Giuseppe Petrucci, le président de l'Institut italien pour les sourds et les malentendants, souhaite que le pape s'adresse aux sourds en langue des signes. Fin novembre, au nom de tous ses pensionnaires, il a envoyé une lettre au pape pour lui demander de faire ce message. Un message pour que tous les sourds d'Italie et du monde ne se sentent pas marginalisés. Alors justement, comment les sourds peuvent-ils participer au quotidien, aux messes, aux célébrations? Audrey Radondi a interrogé l'équipe diocésaine d'animation pastorale pour les sourds du diocèse d'Angers.
Le père Jorono est le prêtre de Saint-Martin-des-Champs à Angers, la paroisse qui accueillera la communauté des sourds à Noël. Il salue cette initiative.
C'est très important pour les sourds. Pour eux, le langage des signes, c'est leur culture, c'est leur vraie culture. C'est comme ça qu'ils ont appris à parler, c'est comme ça qu'ils s'expriment. Et reconnaître avec les signes, ça veut dire que la langue des signes, c'est un vrai langage, c'est une vraie culture.
Et ça ne l'étonnerait pas que le pape le fasse.
Tel que je le vois agir actuellement, je pense que le pape va le faire. Il met en priorité les périphéries, les gens qu'on oublie, les gens qu'on laisse de côté. Donc je pense qu'il va être sensible à cette demande, enfin je pense. Hein.
S'occuper des sourds demande donc un minimum d'attention, comme l'explique le père Jorono.
Il faut qu'on fasse très attention à la manière dont sont situés les sourds dans l'église, pour qu'ils puissent voir la personne qui traduit. Pour moi, d'abord, ça a été un peu d'apprendre les signes pour pouvoir signer la prière eucharistique. Et même parfois, maintenant, en avançant un peu l'homélie, d'arriver en disant des choses simples, à traduire moi-même en langue des signes ce que je dis en parole. Quoi.
Si les prêtres peuvent, de leur côté, simplifier leur homélie, il y a tout un travail à faire sur les textes liturgiques. Madeleine Renaud coordonne l'équipe diocésaine pour les sourds du diocèse d'Angers.
On se réunit avec l'équipe liturgique de la paroisse. Ensemble, on relit les textes, on réfléchit sur le sens des textes et souvent on les adapte. On essaie de trouver un vocabulaire plus simple, des phrases plus courtes, mais en essayant quand même de ne pas trahir le message.
Un travail réalisé bénévolement par les petits et les grands qui, au final, intéresse les sourds, mais pas seulement.
Ça nous permet d'approfondir un peu les textes. Et pour ceux qui entendent et qui trouvent qu'un texte plus simple, ma foi, c'est pas plus mal.
Ceux qui entendent jouent d'ailleurs un rôle très important.
Les entendants acceptent de gestuer, ce qui n'est pas très naturel toujours dans nos pays, là, de lever les bras. Et donc ils traduisent le « gloire à Dieu », l'alléluia. Et tout ça fait que des liens se créent entre sourds et entendants. Et après les célébrations, très souvent des personnes entendantes viennent nous remercier, car elles trouvent que les gestes sont beaux et les aident à prier.
Toute la communauté se prépare donc à fêter Noël avant de célébrer le 20. 26 janvier, la fête de Saint-François de Sales, patron des sourds.
Ce mardi, quelques heures avant la messe de la nuit de Noël, une crèche réalisée par des artisans napolitains sera inaugurée sur la place Saint-Pierre. L'occasion pour nous de revenir sur l'histoire de la première crèche vivante. Tout a commencé il y a bien longtemps, en 1223, à Greccio, un petit village de l'Italie centrale. Saint-François d'Assise, l'ami des pauvres, voulait voir de ses yeux et toucher de ses mains l'enfant Jésus couché dans une crèche, entouré d'un bœuf et d'un âne. Saint François d'Assise, c'est aussi et surtout celui qui inspire le pape François. Alors comment va-t-il justement fêter son premier Noël comme évêque de Rome? Les précisions du frère Nicolas, il est le directeur des éditions franciscaines.
François est un contemplatif et c'est un homme très concret. Il veut voir, il veut toucher, il veut entendre Jésus. Et ce qui le touche profondément dans sa contemplation de Jésus, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté du Christ qui naît pauvre et nu dans une crèche. Et François associe toujours d'ailleurs la pauvreté de Jésus et la pauvreté de Marie sa mère. Cette contemplation, François veut revivre au plus près cette pauvreté du Christ qui pour nous se fait humble et petit. Et alors François ne sépare jamais dans sa contemplation du Christ pauvre la crèche, l'Eucharistie et la croix. Pour lui, c'est vraiment le même mystère de la pauvreté d'un Dieu qui se donne. D'ailleurs, François, dans sa première admonition, un texte merveilleux, nous dit « Voyez, frères, l'humilité de Dieu, lui qui chaque jour, quittant son palais royal, se donne entre les mains du prêtre, de même qu'il s'est donné le jour de Noël dans cette humble grotte. » Et je crois que ça, c'est quelque chose de très fort dans la spiritualité de Saint-François.
L'exemple de Saint-François nous montre une vision de l'humilité du mystère de Noël, donc bien loin de l'aspect commercial qu'on peut voir aujourd'hui.
Oui, c'est ce mystère d'une présence qui redonne de la joie et de l'espérance. François fête Noël au milieu de villageois très, très pauvres. Et c'est là le miracle de Noël qui se renouvelle avec François comme il se vit encore chaque jour. Toute personne qui accueille le mystère de Noël se découvre aimée de Dieu parce qu'elle rencontre et elle accueille celui qui vient faire route avec chacun de nous. Et c'est pour ça que Jésus se fait pauvre et petit, de façon à ce que personne ne se sente exclu de ce cadeau qui lui est fait, un cadeau d'une présence merveilleuse.
Et donc là, ça va être le premier Noël du cardinal Bergoglio en tant que pape François. Comment vous imaginez ce Noël avec lui?
Ça ne m'étonnerait pas que, comme il le fait toujours, qu'ils choisissent de célébrer Noël auprès des pauvres. Ceci me touche profondément, c'est qu'il n'y a pas un déplacement qui ne commence par cette rencontre des pauvres. Et pour moi, le pape me touche évidemment par ce qu'il dit, mais d'abord par ce qu'il est et par ce qu'il fait. Il nous ouvre un chemin. Il nous dit, si vous voulez retrouver le chemin de la joie, il faut que vous retrouviez aussi le chemin de la proximité des plus pauvres. C'est l'élan profond de l'incarnation. Le Christ s'est fait pauvre avec les pauvres pour leur redonner le goût et la fierté d'être ce qu'ils sont, des personnes aimées de Dieu.
Donc le pape François prend bien la suite de saint François d'Assise.
Oui, et moi, en tant que franciscain, je suis profondément touché par notre pape et je crois qu'il nous appelle à revenir à la source de l'évangile d'abord, bien sûr, puisque François, c'est un homme profondément évangélique. Saint François et le pape François. Et je crois qu'il invite toute l'Église à revenir à la source. Et c'est un grand cadeau pour toute l'Église que cet homme. Oui.
Frère Nicolas, directeur des éditions franciscaines, interrogé par Audrey Radondi. Le Noël de Saint-François d'Assise, c'est aussi le titre d'un livre pour les enfants, écrit par le frère Éloi Leclerc et paru aux éditions franciscaines. Le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises a demandé aux Églises du monde entier de continuer à prier en cette période de Noël pour le retour des religieuses orthodoxes enlevées cette année en Syrie. Les moniales du monastère de Sainte-Thècle enlevées à Maloula et les deux archevêques d'Alep enlevés alors qu'ils étaient de retour d'une mission humanitaire. La douleur de cette séparation s'ajoute à la souffrance actuelle de tout le peuple syrien en raison du conflit. Le Conseil œcuménique des Églises appelle tous les acteurs du conflit syrien à épargner les civils et à ne pas les utiliser comme boucliers humains. Il demande à la communauté internationale de faire preuve de solidarité avec toutes les victimes d'enlèvements et de disparitions forcées, ainsi qu'avec les dizaines de milliers de déplacés qui ont perdu leur maison, leurs biens et leur travail. Rappelons par ailleurs qu'un jésuite romain, le père Paolo Dall'Olio, engagé pour la paix et le dialogue islamo-chrétien, a disparu fin juillet dans le nord de la Syrie. En Indonésie, la police se mobilise pour protéger la minorité chrétienne à l'approche de Noël et pour conjurer toute attaque terroriste de la part des groupes fondamentalistes. Il y a une semaine, le président indonésien avait fait état publiquement d'informations concernant un complot des extrémistes musulmans en vue de perturber les fêtes de Noël. Quelque 87 000 agents sont sur le pied de guerre. L'alerte a été lancée notamment à Banda Aceh, sur l'île de Sumatra, et à Jakarta. Parallèlement, des groupes musulmans se sont unis à des volontaires chrétiens pour assurer la protection des églises pendant les célébrations de Noël. Depuis un certain temps, dans cet archipel, les communautés chrétiennes et musulmanes unissent leurs forces pour défendre la liberté religieuse. Des leaders des deux religions ont pris la parole pour mettre en garde leurs fidèles contre ceux qui exploitent la religion pour commettre des actions violentes à l'approche des élections. Et pour terminer cette émission, nous nous arrêtons sur la date de Noël. Pourquoi fêtons-nous la naissance de Jésus le 25 décembre? Quand avons-nous commencé à fêter Noël ce jour-là? Ces questions, nous les avons posées au père Jacques Nieuviard, assomptionniste et conseiller éditorial de la revue Prions l'Église.
Rien ne nous est dit dans les évangiles sur la date de Noël. Et d'ailleurs, si on en croit les bergers qui gardaient les troupeaux dans les champs, on serait plutôt à un moment printanier, à partir du mois de mars. Mais la date de Noël, en fait, ne s'est imposée que vers le IVe siècle. La fête chrétienne, c'était la fête de la résurrection de Jésus. C'est le Christ mort et ressuscité qui est au cœur de la foi. Et on pourrait dire la même chose, d'ailleurs, de la façon dont les évangiles ont été écrits, sont constitués. C'est qu'on a commencé par dire la mort et la résurrection de Jésus. Ensuite, on a développé tout le ministère de Jésus. On a gardé ses paroles, on a gardé ses gestes. Et puis, ce n'est qu'à la fin que l'on a placé une sorte de grand liminaire, un grand portail d'entrée. Chez Marc, il est très court. C'est simplement le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et immédiatement, on parle de Jean-Baptiste au bord du Jourdain et du baptême de Jésus, puis des tentations désertes. Donc dans Marc, rien ne nous est dit. Et dans l'évangile de Jean, qui est le plus tardif, qui est écrit vers l'année 100, commence son évangile comme une très grande fresque, une vision prodigieuse. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Donc ce sont Matthieu et Luc qui parlent de l'enfance de Jésus et de la naissance de Jésus.
Est-ce que des éléments dans leurs évangiles peuvent éclairer sur une date?
On n'a aucune notion de date, mais on a, avec Matthieu et Luc, cette grande ouverture qui montre l'incarnation du Seigneur. Ce qui nous est dit à ce moment-là, c'est plus qu'une petite histoire de savoir où est né Jésus et comment. C'est véritablement le Seigneur de notre foi qui est venu en notre chair. Et voilà, quand il naît à Bethléem, s'accomplissent les Écritures. Quand l'évangile de Matthieu nous dit que des mages venus d'Orient suivent l'étoile, il y a des grands textes de l'Ancien Testament qui parlent déjà de l'astre à son lever. Il y a la grande prophétie messianique du prophète Balaam. Donc Matthieu, en parlant de la venue des mages, dit l'importance de la naissance de Jésus, une importance pour tous les peuples. Et donc on va lire ce texte à la fête de l'Épiphanie.
Et pourquoi cette date du 25 décembre?
La fête ne s'est finalement établie au 25 décembre que par une tradition. Il y avait une très forte tradition païenne de fêter justement au moment du solstice d'hiver, le sol invictus, en latin, le soleil invaincu. Donc c'était la grande fête païenne. Il y avait aussi, dans le courant du mois de décembre, à Rome, les Saturnales, de grandes fêtes populaires où on conjurait l'hiver. Là, on place au cœur de l'année, au moment le plus sombre, on voit surgir la lumière, la seule, qui est le Christ venant en ce monde, le Christ ressuscité.
Et d'où vient le mot Noël?
Le mot Noël vient probablement des mots latins « dies natalis », jour de naissance. On parle du dies natalis pour les saints, c'est le jour de leur naissance au ciel, c'est le jour de la mort. Certains pensent que ça pourrait venir de deux mots gaulois, noyo qui voulait dire nouveau et el qui voulait dire soleil. Si c'était comme ça, le nouveau soleil nous dirait que les Gaulois portaient déjà de l'importance à cette fête de la renaissance de la lumière.
Quel rôle a joué l'Église dans le choix de cette date?
L'Église, des premiers siècles, ne s'est pas du tout souciée de trouver ou déterminer la date de la naissance de Jésus. Elle est venue donc progressivement. Et il faut se souvenir d'ailleurs que tout ce qui est dit des origines de la naissance de Jésus vient un petit peu comme une sorte de rétro-projection du mystère que l'on a découvert dans la mort et la résurrection de Jésus. Et en quelque sorte, eh bien, c'est l'éclat de la résurrection qui vient déjà éclairer la naissance de Jésus. Peut-être aussi la passion, dans la mesure où on voit que le Christ est placé dans une mangeoire. Et l'iconographie chrétienne a souvent représenté la mangeoire à la façon du tombeau, comme s'il y avait un peu une préfiguration de cette humilité totale et du don total de la vie du Christ que sera la mort et la mise au tombeau.
Le père Jacques Nuviard, assomptionniste et conseiller éditorial de la revue Prions l'Église. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je vous invite également à nous retrouver sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.